À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non.
Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.
Science, friction. Science Friction, une émission d'Alain Vattier et de Jean Ibanez. Alors Alain, bonsoir, bonsoir à vous.
Bonsoir Jean, bonsoir tout le monde.
Eh bien, on se retrouve encore ce soir pour Moebius et...
Son garage hermétique.
Voilà. Et donc, l'univers de Moebius, c'est un univers qui est quand même assez déroutant. Mm-hmm. Alors, on essayait un petit peu d'en parler la dernière fois, parce que ce garage...
Très hermétique.
Très hermétique. En fait, se réinvente à chaque fois. C'est le principe de cette bande dessinée, hein, puisque en fait, il n'a pas décidé lui d'entrée de jeu de faire un album complet, une histoire complète.
C'est l'histoire qui s'invente au fur et à mesure.
Voilà. Ouais. Hein, on va lui imposer en quelque sorte cette marche à suivre. Hein. Et Moebius dans ce garage hermétique va en fait construire un récit qui, on l'a vu, est à trois films et aussi sur trois niveaux avec trois personnages qui sont des personnages principaux. On a parlé du Major Gruber, mais on a très peu parlé de Jerry Cornelius.
Ouais.
Qui est annoncé dès le départ et qui va les rejoindre à la fin.
Rejoindre le Major Gruber, hein, oui.
Voilà.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage de Jerry Cornelius ?
Jerry Cornelius, c'est un personnage, au départ, enfin, pendant presque les deux tiers du récit, on n'en saura pas grand-chose. Hein. On le verra que quand il sortira de son véhicule et on s'apercevra que c'est une espèce de personnage... Comment je pourrais dire, il ressemble un peu à un super-héros, hein, parce qu'il a une espèce de costume, il est capable de voler. Au fur et à mesure de l'histoire, on apprend aussi que Jerry Cornelius était en fait un ancien ami de Gruber. Ils ont fait apparemment des campagnes ensemble et ils se sont plus ou moins brouillés, on ne sait pas trop pourquoi. Et effectivement, Jerry Cornelius cherche à régler des comptes avec le Major Gruber. Mais finalement, ils finiront par s'allier parce qu'ils auront un ennemi commun.
Voilà. Et donc, ce Jerry Cornelius, il est annoncé dès le départ et à la fin de l'histoire, on va un peu spoiler, à la fin de l'histoire, il va mourir.
Oui, il va se sacrifier pour sauver le garage, ouais, tout à fait.
Donc, en fait...
Ce qu'on apprend aussi, c'est que Jerry Cornelius est un envoyé du Nagal. Le Nagal aussi, on en a parlé tout à l'heure, cette espèce de créature mythique méso-amérindienne. Qui est utilisé ici comme envoyé, je crois que c'est un être incréé, enfin je sais pas, je crois que tu as plus de détails sur le Nagal.
Alors dans l'introduction, Moebius il dit c'est un concept métaphysique de la tradition indienne d'Amérique centrale qui désigne l'incréé, la part du divin qui demeure en dehors de la sphère de compréhension de l'homme.
C'est ça.
On comprend pourquoi Moebius a travaillé avec Jodorowsky
hein, ouais.
Et comment ils sont quand même imprégnés
en fait de mysticisme
amérindien. Voilà. Il y a quand même dans cet album, mais pas seulement, hein, une forte présence en fait de toutes ces références chamaniques, indiennes, etc. Mm-hmm. Mais toujours, malgré tout, avec une forme d'humour.
Avec une distance, oui.
Toujours, il y a une forme de distanciation qui est...
Jamais trop au sérieux. Ou alors, dès qu'il se prend au sérieux, une vanne suit pour désamorcer le côté, justement, un peu trop sérieux.
Voilà, on n'est pas là dans une construction ou dans un discours ou un cours.
Non, c'est pas du prosélytisme.
Voilà. Hein. Et il est toujours, en quelque sorte, dans un jeu de distanciation et aussi d'humour.
Oui,
hein.
Oui.
Il y a un humour permanent, en fait, dans l'album. Il se moque de lui-même. Il se prend pas au sérieux, en fait, Moebius.
Non, il y a toujours une certaine distance et il maintient aussi la distance avec le lecteur. Quoi. Il faut pas que le lecteur non plus prenne trop au sérieux son histoire.
Oui, il y a une espèce de distanciation. Est-ce qu'on pourrait dire une distanciation
critique,
hein. Oui. Hein, est-ce qu'on peut parler de distanciation brechtienne?
Peut-être. Hein.
Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est tous ces jeux, en fait. Il joue avec son récit qu'il construit et qu'il déconstruit.
Mmh, tout à fait.
Hein. Et on le sait, c'est deux pages à chaque fois qu'il écrit pour...
Minimum.
Au moins deux pages, hein, pour le journal Metal Hurlant. Hein. Et il doit présenter à chaque fois, en quelque sorte, le résumé des épisodes précédents. Et il joue avec ça aussi.
Tout à fait. Hein.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit ben, « pas de résumé aujourd'hui », ou alors il parle du résumé des futurs chapitres. Et en fait, il est toujours en quelque sorte dans une déconstruction de ce qu'il est en train de construire.
Mm-hmm.
Hein. C'est un jeu, mais en même temps, ce qui est étonnant, et ce qui est absolument génial avec Moebius, c'est qu'il arrive à ce que ça ait du sens, mm-hmm. à ce que tout ça soit relié. Ensemble.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a l'impression...
On est à la fois perdu et guidé dans les histoires, dans cette histoire-là.
Exactement. Il procède tout le temps par cadrage, décadrage, par distanciation, déconstruction, mais en même temps, à chaque fois, il rétablit de la cohérence, du sens, etc. Et c'est un jeu...
Jusqu'à une conclusion qui est finalement presque classique.
Hein, oui.
Qu'on pourrait trouver dans un album construit de façon linéaire, quoi.
Alors, pour moi qui suis un petit peu philosophe, je suis prof de philo, il y a quand même des références aussi très philosophiques, mm-hmm. hein, spiritualiste, chamanique, on a dit, etc. Mm-hmm. Mais on se retrouve même avec une référence à la morale stoïcienne.
Oula, c'est la responsabilité là.
Mais à un moment donné, donc, il y a le major Gruber, si je ne me trompe pas, qui reçoit... un seau d'une substance sûrement...
On ne sait pas trop ce que c'est. Ouais, c'est de la peinture, de la merde ou je ne sais pas quoi. Oui.
Et qui dégouline sur le chapeau...
Le casque,
du major Gruber. Et il dit ceci, toutes les réactions, tous les événements, toutes les circonstances, la bonne et la mauvaise fortune, le respect et l'insulte, la renommée et le blâme, la victoire et la défaite, les événements agréables ou pénibles, non seulement ne m'ébranlent pas, mais ne peuvent même pas me toucher et me laissent libre dans mes émotions, mes réactions nerveuses et mes vues mentales. On est là en plein stoïcisme. C'est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, il ne se laisse absolument pas altérer par tout ce qui peut lui arriver.
Ouais. Garde toujours sa distance.
Ouais. Et est-ce qu'on peut dire finalement que à ce moment-là, le major Gruber est une mise en abîme de Moebius.
Moebius lui-même.
Oui, parce qu'il se moque de lui-même, mm-hmm. hein, quelque part, à travers... Mais en même temps, il ne se laisse pas atteindre par ça. C'est-à-dire qu'il ne se perd pas. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'à tout moment, ça va partir, qu'il va se perdre. Et en fait, il continue à construire une histoire qui a du sens, etc.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont égarés, qui sont perdus, mais ils se retrouvent. Et en quelque sorte, dans ce dédale, dans ce labyrinthe qu'a construit Moebius, ces personnages qui se perdent se retrouvent et inventent en fait de nouvelles issues, de nouvelles portes.
Oui, une porte qui va la dernière débouchant sur la réalité elle-même.
Oui. Alors, en fait, quand il construit un album, il construit un album pas comme une maison classique.
Il y a une citation effectivement de Moebius qu'il écrivait dans l'éditorial du numéro 4 de Metal Hurlant. Hein, il disait, je cite, « Il n'y a aucune raison pour qu'une histoire soit comme une maison avec une porte pour entrer, des fenêtres pour regarder les arbres et une cheminée pour la fumée. On peut très bien imaginer une histoire en forme d'éléphant, de champ de blé ou de flamme d'allumettes soufrées. » Voilà, donc effectivement, une histoire, ce n'est pas forcément un début, un milieu, une fin. Ça peut être, comme dans le garage hermétique, un véritable labyrinthe, mais où on est à la fois, comme je crois qu'on l'a dit la dernière fois, c'est perdu et guidé.
Oui, il y a une dimension qui est complètement onirique en fait.
Mmh. Alors, complètement, oui, onirique et comment je pourrais dire... Il y a un côté fantastique aussi, hein, dans un espèce d'univers. Enfin, c'est un univers qui se découvre au fur et à mesure, qui se construit, alors que le Major Gruber lui connaît très bien cet univers, puisque c'est lui-même qui l'a inventé. Mais Moebius, lui, le découvre en même temps quand il suit son personnage. Il y a cette idée-là aussi. Le Major sait, mais Moebius découvre.
Alors Alain, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ?
Ah, ça, c'était un morceau de John Hassell et ça s'appelle Dream Theory, théorie du rêve.
D'accord. On est, c'est ce qu'on disait il y a un instant.
Dans un monde onirique.
On est dans un monde onirique dans lequel tout est possible en fait. Mm-hmm. Hein, en fait, on peut passer d'un espace à un autre sans qu'il y ait absolument une cohérence spatiale, etc. Et les portes ouvrent d'un espace à un autre.
Mm-hmm. Oui, ou même d'un monde à un autre, puisque, comme on le disait aussi, sur la fin, le Major Gruber franchit une porte et se retrouve dans le métro Opéra à Paris. Donc il se retrouve dans un monde, le monde réel, le monde d'ici, quoi.
Oui.
Pas un monde imaginaire qu'il a lui-même construit dans un monde, dans notre monde, on va dire.
C'est toute la référence au chamanisme, puisqu'on sait que les chamans
traversent les mondes.
Ouais. Ils traversent les mondes. Mm. On parle des chamans comme des psychopompes.
C'est
psychopompes,
ça.
Hein, c'est ceux qui portent les pompes, hein, les pompes funèbres qui portent les cadavres. Mm. Mais les psychopompes, c'est ceux qui portent les esprits.
Les âmes.
Les âmes, qui les font véhiculer, qui les font passer
d'un monde
à un autre. Et en effet, cette question du transport est une question qui est vraiment importante. Chez Moebius et tout particulièrement dans cet album, puisqu'il va en fait mettre en scène tous les moyens possibles de transport.
Oui, hein. On a l'animal, le train, l'avion, le sous-marin.
Et d'ailleurs, à un moment donné, il dit de lui-même que, enfin, il dit de lui-même, Il dit, de manière très ironique, hein, ce que j'aime dans le garage hermétique, parlant de son propre album, hein, c'est la variété infinie des moyens de communication. Voilà, c'est le côté ironique de Moebius qui en même temps commente son propre album.
Oui, surtout que là, il est justement, au moment où il dit ça, il dans une locomotion animale et il dit que c'est quand même pas sa préférée.
Oui, c'est pas sa préférée, mais ce qui est amusant quand même, c'est ce côté, comment on pourrait dire, un peu nietzschéen, hein, Nietzsche qui écrit dans Ecce Homo, c'est le sous-titre de son ouvrage, il dit pourquoi j'écris de si bons livres. Donc c'est ce côté un peu humoristique, mais en même temps qui est, comment on pourrait dire, où il affirme sa volonté de à la fois de reconnaître ce qu'il fait, mais en même temps de se distancier par rapport à ce qu'il fait. Mm-hmm. Il y a un double jeu toujours, tout le temps, ouais. Hein, chez Moebius. Alors, ce double jeu, on le trouve, et ça, on l'avait évoqué, déjà dans le titre du garage hermétique.
Oui, garage hermétique, oui, c'est sûr que déjà le mot hermétique qui renvoie à quelque chose de complètement fermé, impénétrable, où rien ne sort et où rien ne rentre, qui est aussi quelque chose d'incompréhensible, hein, ça désigne aussi quelque chose qui est complètement ouvert à l'interprétation, justement parce que ça lui résiste.
Hein. Oui. Il y a une, comment on pourrait dire, il, d'ailleurs il revendique ça dans son introduction, l'idée de l'œuvre ouverte.
Oui, c'est une œuvre ouverte. Il y a aussi le mot garage aussi, qui peut renvoyer à l'expression voie de garage, sans issue, ou qui n'aboutit à rien. Alors que, contrairement à ce que laisse suggérer le titre, en fait ce titre était là pour faire barrage au récit en fait, hein, puisqu'à l'origine il ne voulait pas en faire une suite.
Oui.
Mais finalement, il arrivera finalement à cette voie de garage, ça verra très profitable puisqu'elle va déboucher sur tout un univers.
En même temps, le garage, c'est ce qui vient réparer.
Oui.
C'est ce qui vient fabriquer, mais c'est ce qui vient réparer.
D'ailleurs, l'histoire commence, dans un garage.
Dans un garage.
Où on est en train de réparer une machine.
Voilà. Et donc, en fait, on est là, on pourrait dire, dans une mise en abîme du travail de Moebius, parce qu'il revendique d'ailleurs ça, le côté artisanal, oui. Hein, de fabrication artisanale, avec cette idée qu'à la fois on expérimente, mais en même temps on explore hein, des nouvelles formes, des nouvelles figures, des nouveaux espaces, etc.
Oui, d'ailleurs, en ce sens, le Major Gruber est un peu le double fictionnel de Moebius, puisque c'est à la fois un explorateur et un démiurge, et c'est exactement ce qu'est Moebius.
Oui.
Il explore son univers et en même temps, il le crée.
Alors, à un moment donné, il joue d'ailleurs avec le titre même, hein, le garage hermétique, puisqu'il va parler de l'eau-garage hermésien. Hein. Et d'ailleurs, il dit, c'est le titre d'ailleurs d'un des chapitres, il appelle ça l'eau-garage hermésien de Moebius, signé
Jerry Cornelius.
Il joue donc entre les personnages, l'auteur, le créateur, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette idée de l'eau-garage hermésien, c'est que, en fait, hermétique aussi renvoie au dieu Hermès, qui, ouais. qui est le dieu des voyageurs,
oui.
Hein, qui est le dieu aussi des voleurs aussi. Mm-hmm. Hein, Hermès, c'est celui qui, en quelque sorte, c'est celui qui permet de se transporter et aussi, en quelque sorte, de pouvoir assurer le transport d'un monde dans un autre. Donc il y a dans le titre, le garage hermétique, en quelque sorte, en potentialité. Tout l'univers de Moebius. Mmh. Hein, c'est des moyens de communication, mais en même temps aussi la transformation que ça représente. C'est-à-dire qu'on passait d'un monde dans un autre, on ne le fait pas de n'importe quelle manière. C'est pas sans perte, en quelque sorte, ou sans gain. Mmh. Hein, y a à chaque fois une modification, une métamorphose qui va venir s'opérer. Donc ce garage hermétique, cette distanciation que Moebius met en place dès le titre même de son album, il est là en quelque sorte pour nous amener à ne pas chercher à tout prix, immédiatement, à trouver un sens. Mm-hmm. Et laisser ouvert en quelque sorte notre imaginaire. Mm-hmm. Il joue avec notre imaginaire en fait, Moebius.
Hein. Ouais.
Alors, hermétique, c'est quelque chose qui, on l'a dit, qui est imperméable et qui résiste à une pénétration, une interprétation. Mm-hmm. On pourrait dire, par rapport à donc, l'imaginaire de Moebius, tout particulièrement dans cet album, qu'on a là affaire à quelque chose qui serait de l'ordre de peut-être la machine. quelque chose qui est, qu'on peut utiliser, qu'on peut manipuler, transformer, mais qui n'est pas compréhensible comme, de manière psychologique, comme un être humain.
Ouais, c'est-à-dire
que, en fait, ce qui vient résister à une compréhension, ça vient résister en fait à notre volonté à tout prix de rechercher un sens psychologique à ce qui est en train de se produire. Mm-hmm. Et ce qu'il cherche à mettre en place en quelque sorte, c'est à déjouer toujours cette volonté de nous identifier à un personnage. Mm-hmm. Le lecteur ne peut pas en quelque sorte.
On est toujours tenu à distance des personnages.
On est toujours.
Ouais, tout à fait.
Il y a une difficulté pour nous. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on le voit, il y a les masques, il y a les jeux, comment on pourrait dire, de surprise.
Oui, il y a l'histoire de l'archer masqué, justement. Hein.
L'archer masqué.
Qui a un masque pour être lui-même.
Voilà. Et d'ailleurs, on parle
pour qu'on le reconnaisse. Oui. Il porte un masque pour qu'on le reconnaisse.
Philosophie curieuse d'ailleurs.
Il répond Barnier. Oui.
Ah, voilà. Hein. Donc, en effet, c'est là où, en fait, cette identification classique que le lecteur peut avoir avec un des personnages, en fait, est déjouée constamment par Moebius. Mm-hmm. Hein. Mais en même temps, il joue quand même avec. Mm-hmm. Alors Alain,
oui.
on vient d'entendre quoi là ?
Un morceau d'un groupe tchèque qui s'appelle The Plastic People of the Universe, et le morceau s'appelle Magic Nosy.
D'accord. Tout un programme.
Tout un programme.
Moi je pense que ça devrait plaire à Moebius.
Certainement.
Bon. Alors, on a parlé de l'univers de Moebius, on a parlé beaucoup de personnages masculins, il y a, mm-hmm. y a des personnages féminins.
Ouais, il y en a trois en fait.
Ouais.
Enfin, un, on le découvre sur la fin, mais...
Oui. Mais en même temps, on devine un peu qu'il y a une dimension féminine quand même.
Oui,
parfois,
sur le visage, il y a par moments le visage a un côté androgyne, effectivement, mais on ne le soupçonne pas quand même.
Hein. Ouais.
On le devine vraiment qu'à la fin, on est aussi surpris que l'archer quand il le découvre.
Ouais. Il y a le personnage de Malvina.
Malvina, la compagne du major Gruber.
Oui. Alors, ce personnage, comment le présenter ?
Ben, je sais pas trop comment le présenter. Enfin, si, c'est un personnage qui est apparemment très attaché au major et qui est prêt à
tout
pour l'aider, pour lui porter secours, hein, puisqu'elle envoie même quelqu'un en mission pour essayer de déjouer les plans du Bacalite. Bon, ça échouera, hein, parce qu'il va complètement se perdre, ce pauvre personnage qui a été envoyé en mission. Il se retrouve dans un univers qu'il ne connaît pas, il sait pas. Enfin bref.
Et... Moebius la présente quand même en disant...
Comme une sorcière.
Voilà, il dit Malvina, grande sorcière sexuelle de luxe.
C'est ça.
C'est tout un programme là encore. Et elle a un pouvoir hypnotique sur tous les hommes. Et pour envoyer donc quelqu'un au secours du Major Gruber, elle va jouer de son pouvoir.
Oui, tout à fait. Elle va l'envoyer. Elle est censée l'envoyer en Normandie, on ne sait pas trop en quelle année, rechercher Eric Cornelius, qui est le frère de Jerry Cornelius, qui apparemment sont plutôt deux frères ennemis, qui se détestent.
Il y a quand même chez Moebius toujours une envie de jouer avec, comment on pourrait dire, à la fois l'humour. Mmh. Et comment on pourrait dire, et à la fois aussi tout ce qui est attractif, magnétique. Mmh. Hein, on a parlé du chamanisme.
Ouais.
Hein, on voit que ce personnage de Malvina, il a un pouvoir d'attraction très fort.
Ouais,
hein. Mais en même temps, ce pouvoir d'attraction, Moebius, il va pas en abuser sur le lecteur, puisque en fait, immédiatement, c'est un piège. Mmh. Malvina va piéger dès le premier baiser ce personnage qui va être envoyé au secours du Major Gruber et qui va se perdre en fait dans l'espace et dans le temps.
C'est ça.
Hein? Et en fait, ce qui revient dans l'album de Moebius, c'est que même le sexe, qui est la chose la plus sérieuse, la plus obsédante pour les hommes, n'est pas prise complètement au sérieux, hein, puisqu'il va en fait se moquer. De la chose. Là, en quelque sorte, Malvina, c'est à peine un baiser et lui, il est perdu.
Oui,
il va
projeter dans un autre monde.
Voilà. Et sinon, même dès le début de l'histoire, à un moment donné, le personnage dans le robot, en fait, ils vont avoir une relation passionnée, érotique.
Oui, qui apparemment dure des heures.
Voilà, qui dure très longtemps. Et après, par la suite, on va apprendre que le fameux Sam, en question, est un robot.
C'est un androïde, ouais.
Voilà. Donc, il y a une espèce de jeu toujours humoristique, distancié, mmh. Par rapport à l'histoire, par rapport au mythe, par rapport à la sexualité, etc. Mmh. En fait, Moebius ne se prend pas au sérieux, mais en même temps, Il nous conduit d'un bout à l'autre et ça marche.
Oui, et puis il pose des questions aussi. Donc, c'est pas simplement une simple moquerie qui annulerait complètement ce qui se dit. C'est aussi une moquerie qui peut permettre de poser des questions sur certains sujets, la sexualité, le sens, les repères, enfin ce genre de choses, quoi.
Oui, il y a toujours une question d'exploration, en quelque sorte.
Oui, oui, on est toujours en mouvement. C'est toujours... C'est un récit qui est tout le temps en mouvement et dont le sens est tout le temps en mouvement aussi.
Et
il y a qu'à voir avec Barnier d'ailleurs. On pense au départ que l'ingénieur Barnier est un homme et on s'apercevra vers la fin qu'en fait il s'agit d'une femme. On sera tout aussi surpris que l'archer qui découvre quand elle perd son casque,
oui.
Qu'elle a les cheveux longs et on s'aperçoit tout d'un coup que c'est une femme. Donc il y a tout un mouvement de devenir là aussi qui se joue.
Oui, il y a un jeu de surprise permanent, en quelque sorte. Oui. Hein. Et on le voit bien, chez Moebius, il y a un goût du bizarre, de l'étrange, du curieux.
De la métamorphose.
Oui, de la métamorphose permanente. Mm. Hein. On est là, en quelque sorte, jamais certain de savoir à quoi on a affaire.
Et à qui.
Et à qui on a affaire. Mm-hmm. Hein. Curieuse philosophie que celle de...
Comme dirait la fiancée de Sam.
Voilà.
Non, c'est Barnier qui dit ça.
Oui, c'est Barnier qui dit ça.
À propos de l'archer.
Voilà. Eh bien, bonsoir Alain, bonsoir à vous.
Bonsoir Jean, bonsoir tout le monde.
Et à bientôt pour une nouvelle émission de Science Friction.
À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.